Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 5 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et au sommaire du journal de ce jeudi 7 juin, le gouvernement de Tasmanie risque de tomber ce jeudi. Le gouvernement albanaise retarde la mise en œuvre de sa nouvelle législation sur les soins aux personnels les plus âgés qui obligera ces personnes âgées à contribuer davantage d'argent à leurs besoins en matière de soins. La croissance économique australienne a ralenti à 0,2% au cours des trois premiers mois de l'année, malgré les prévisions des économistes pour une croissance du produit intérieur brut de 0,4%. Le premier de Tasmanie, Jeremy Rockliffe, admet qu'il risque d'être destitué si une motion de censure parlementaire à son encontre est adoptée ce jeudi. Le premier du gouvernement libéral minoritaire en Tasmanie subit une pression croissante concernant la gestion du budget de l'État et les dépenses d'infrastructures majeures. Le chef de l'opposition travailliste, Dean Winter, a déposé la motion mardi et trois députés des crossbenchers ainsi que les Verts ont indiqué qu'ils la soutiennent. S'exprimant lors du débat sur la motion, Rockliffe a condamné l'opposition.
If Mr. Winter's divisive and destructive motion is passed, I will be going to the Lieutenant Governor and seeking an election. This will be advice that I will provide to the Governor that an election is needed. Unless Mr. Winter forms government with the Greens.
Le gouvernement travailliste retarde la mise en œuvre de sa nouvelle législation sur les soins aux personnes les plus âgées qui obligera ces personnes à contribuer davantage d'argent à leurs besoins en matière de soins. La nouvelle législation entre désormais en vigueur début novembre au lieu de juillet. Le ministre de la Santé, Mark Butler, affirme que ce report donnera aux prestataires de soins résidentiels le temps de s'adapter aux nouvelles règles. Le réseau de défense des personnes âgées, Older Persons Advocacy Network, soutient ce report à contre-cœur, le jugeant judicieux pour les personnes âgées, car elles ne disposent pas encore des informations nécessaires pour faire des choix éclairés au niveau individuel, notamment concernant le nouveau programme de soutien à domicile. L'enquête judiciaire sur le décès d'un homme de 24 ans en garde à vue dans le territoire du Nord a été suspendue le temps de l'enquête. La police précise que les preuves recueillies concernant le décès, notamment les images de vidéosurveillance, ne peuvent être divulguées tant que l'enquête n'est pas terminée. La foule en deuil devant le Parlement du territoire du Nord avait ce message pour ses politiciens hier soir.
We want justice! Are you hearing us, Leah?
We want justice. We want justice.
We want justice.
We want justice.
We want justice.
La croissance économique en Australie a ralenti à 0,2% au cours des trois premiers mois de l'année, malgré les prévisions des économistes pour une croissance du produit intérieur brut de 0,4%. Après une hausse de 0,6% au cours du trimestre de décembre, la consommation des ménages, les investissements des entreprises et les dépenses publiques plus faibles que prévues ont freiné la progression. Le Bureau australien des statistiques indique que la croissance économique annuelle s'est maintenue à 1,3%. Le trésorier Jim Chalmers estime qu'une croissance économique, même modeste, est un résultat encourageant.
Our economy continues to grow despite very substantial global headwinds. We saw those set out by the OECD overnight and also in the commentary in the Reserve Bank minutes that were released yesterday. There wasn't a lot of growth in March, but what growth there was private sector led, and that's an encouraging sign.
Les Verts annoncent avoir mis fin à une enquête interne sur le comportement de la sénatrice Dorinda Cox après qu'elle ait décidé de rejoindre le Parti travailliste lundi dernier. Madame Cox a fait l'objet de multiples plaintes de son personnel concernant son comportement au travail par l'intermédiaire du service parlementaire de soutien au travail. La sénatrice indépendante et ancienne députée verte Lydia Thorpe a également révélé avoir porté plainte pour harcèlement contre Madame Cox. Les Verts affirment qu'ils ne peuvent plus continuer avec l'enquête concernant Madame Dorinda Cox maintenant qu'elle a quitté le parti. La sénatrice a déjà présenté des excuses suite aux plaintes de son personnel. Nicolette Bowe a remporté le dernier siège restant des élections fédérales après un recomptage très serré pour la circonscription de Bradfield à Sydney. Ce recomptage a permis à la candidate indépendante de terminer avec seulement 26 voix d'avance sur la candidate libérale Gisèle Kapterian. Madame Kapterian menait de 8 voix. Après le premier décompte, ce qui a déclenché un recomptage automatique, le résultat étant inférieur à 100 voix. Madame Bull a ensuite repris une courte avance lors du recomptage, conservant ainsi sa victoire. L'Australian Electoral Commission a déclaré dans un communiqué que lors d'un recomptage, chaque bulletin de vote est examiné de très près par le personnel. Madame Bull a déclaré sur ABC que la question de savoir si le recomptage devait être contesté dépendait de son adversaire, la candidate libérale Gisèle Kapterian.
You know, I think I'm very confident and with the process that's been run by the AEC and the outcome that we have here. So I'm keen to get on with the job, but I can understand you might need to ask that question to Gisèle Kapterian, I think.
Et Madame Kapterian n'a pas encore concédé sa défaite et a déclaré qu'elle examinerait attentivement le décompte initial et le recomptage. Des manifestations ont eu lieu hier dans tout le pays pour protester contre l'approbation par le gouvernement fédéral de l'extension du projet gazier du North West Shelf en Western Australia. Les conseils de conservation de chaque État et territoire ont organisé ces manifestations, arguant que cette décision pourrait stimuler la demande d'exploitation de nouveaux gisements gaziers comme le projet Browse de Woodside, au large de la côte de Kimberley en Australie occidentale. Ils affirment que cela va détruire le récif corallien de Scott qui abrite la baleine bleue pygmée, des tortues vertes et certains serpents de mer, tous des espèces menacées. Jordan Rowan, organisatrice de la Coalition australienne des jeunes pour le climat, affirme que les conséquences de cette décision sont majeures.
There's so much at stake here, whether it's traditional custodians' connection to country and songland, young people and future generations.
Le ministre de la Défense de Papouasie-Nouvelle-Guinée affirme que son pays souhaite devenir un acteur majeur de la région Asie-Pacifique, s'exprimant lors de la conférence annuelle de l'Institut australien de politique stratégique sur la défense. Le ministre Billy Joseph a déclaré être conscient des difficultés stratégiques de la région. Ces dernières années, les États-Unis se sont concentrés sur le Pacifique afin de tenter de limiter l'influence de la Chine. L'Australie a également intensifié ses efforts sécuritaires et diplomatiques dans la région, notamment en finançant une équipe nationale de rugby à 15 pour la participation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la compétition en 2028 et en signant un traité de défense entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie plus tôt cette année. Billy Joseph se dit conscient de la situation précaire dans laquelle se trouvent certains pays du Pacifique.
They say when two elephants fight, the grass suffers. We don't want to be the grass. We also have to be a force in our own region.
Les CTU, le Conseil australien et les syndicats affirment qu'une augmentation du salaire minimum ne suffira pas à assurer la subsistance des travailleurs australiens les moins bien payés. Près de 3 millions de travailleurs bénéficieront d'une augmentation de salaire de 3,5% le 1er juillet prochain, suite à l'annonce par la Fair Work Commission de l'augmentation du salaire minimum. Le salaire passe désormais à 24,95 $ l'heure, bénéficiant à plus d'un cinquième de la population active. La secrétaire de l'ACTU, Sally McManus, affirme que les salaires des travailleurs n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la pandémie.
Pour eux, un 3,5% increase means they're getting ahead again. So inflation's 2.4%. So that's a 1.1% lift where you're getting ahead. And so for them, it means that, you know, just that little bit extra makes life a little bit extra. You can afford a bit more. You're not struggling as much as you were. So yeah, it's an awesome outcome.
Ailleurs dans le monde, les membres d'équipage de la flottille de la Liberté pour Gaza affirment être suivis par des drones de surveillance pendant la nuit, alors qu'ils naviguent vers la Palestine pour acheminer de l'aide. Le mois dernier, un navire de la flottille de la Liberté a été contraint d'interrompre sa navigation après avoir été, semble-t-il, touché par des drones au large de Malte. La célèbre militante Greta Thunberg et l'acteur Liam Cunningham sont actuellement à bord du navire le Madeleine. Une vidéo a été enregistrée mardi dernier par Yasmine Akar, membre de l'équipage.
We sighted a drone today at 11 p.m. while we were 80 kilometers off the coast from Greece, and now it's almost 3:30 a.m. in the morning. And right now we have a drone to our left, and we have a drone to our right. It's right behind me. I don't know if you can see it. Yes, it's that light that's going on and off right now.
Madame Akar a déclaré sur SBS que les gardes-côtes helléniques avaient nié que les drones provenaient de la Grèce et avaient refusé de les identifier de quelque manière que ce soit. À l'ONU, un nouveau veto des États-Unis à un cessez-le-feu à Gaza. JHF, la Fondation humanitaire de Gaza, a décidé de fermer les portes de ses centres de distribution hier mercredi. Le président américain Donald Trump a déclaré que Vladimir Poutine l'avait averti très fermement qu'il riposterait à l'attaque de drones ukrainiens contre des aérodromes russes. Donald Trump a également affirmé que toute perspective de paix restait lointaine. Les frappes militaires ukrainiennes de dimanche ont détruit plusieurs bombardiers nucléaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que les conditions de paix proposées par Moscou lors des discussions de lundi dernier à Istanbul sont, je cite, « des ultimatums inacceptables pour l'Ukraine ». Vladimir Zelensky se dit prêt pour un sommet avec Poutine, Trump et Erdogan n'importe quand. Le dirigeant ukrainien a proposé d'instaurer un cessez-le-feu avec la Russie jusqu'à ce qu'une rencontre avec Vladimir Poutine soit organisée. Il a déclaré lors d'un point de presse à Kiev que l'Europe, l'Ukraine et le monde entier avaient une chance de mettre fin à la guerre.
My proposal, which I believe our partners can support, is that we agree a ceasefire with the Russians until the leaders meet. We offer a meeting any day starting from Monday. If there is no mutual understanding, if there is no desire for de-escalation, if there is no desire and vision how to put an end to it, then ceasefire will be over the same day.
Donald Trump a signé hier un décret qui double à compter depuis hier, mercredi, les taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium. Elles étaient déjà montées à 25% en mars, elles grimpent à 50%. L'Australie espère suivre l'exemple du Royaume-Uni après que Donald Trump a accordé une exemption unique aux Britanniques. Alors que le Premier ministre australien Anthony Albanese se prépare à une éventuelle rencontre en personne avec Donald Trump, cette annonce laisse entrevoir un certain répit La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que les partenaires commerciaux étaient encouragés à proposer des accords sur mesure.
Each country has unique advantages, unique challenges to it based on their markets and what they export to us and what we export to them. And so that's why the president smartly advised his trade team to engage in tailor-made deal-making.
Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 20 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 15. Hobart, 13. Canberra, 14. Sydney, 17. Brisbane, 21. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximale de 23 degrés. Fin du journal et merci à vous de l'avoir suivi. h 15 sur les ondes de Radio SBS et je passe maintenant l'antenne à notre collègue Christophe Mallet pour le journal des sports.
Journal des sports, une grande page de tennis aujourd'hui dans ce journal. Et on commence avec, eh bien, la splendide victoire de Loïs Boisson qui atteint les demi-finales de Roland-Garros. Oui, les demi-finales pour Loïs Boisson. Le résumé de son match avec Eric Mamrut.
Oui, elle est bluffante véritablement. Loïs Boisson, que très peu connaissaient avant le début de ce tournoi et qui fait un tournoi totalement inattendu, extraordinaire. Encore aujourd'hui, elle avait battu la troisième mondiale il y a deux jours, Jessica Pigula, l'américaine, et bien cette fois, et bien la barre était encore plus haute, car certes, Mira Andreeva, la russe, n'est que sixième mondiale, mais on la connaissait plus expérimentée, plus à l'aise sur terre battue que l'américaine, et ça a été très serré, hein, un combat long de 2h08, une première manche à rallonge, 1h20, arrachée par Loïs Boisson au jeu décisif à sa quatrième balle de 7. Elle se battait sur tous les points, obligeant sa jeune adversaire à faire des miracles, des exploits pour gagner le moindre point. Vraiment, c'était très usant mentalement pour Mira Andreeva qui, pourtant, après la perte de cette première manche, avait pris le large 3-0 dans la deuxième manche. Mais Loïs Boisson continue à la faire travailler, à s'accrocher, à faire des points gagnants. Résultat, Mira Andreeva a craqué totalement, encaissant 6 jeux d'affilée, résultat 7-6-6-3 pour Loïs Boisson, qui n'a pas tremblé, elle, un seul instant. Et la voilà en demi-finale. Vraiment un parcours féerique. Pour elle, cela faisait 14 ans qu'il n'y ait pas eu une présence française dans le dernier carré de Roland-Garros. La dernière, c'était donc une femme, Marion Bartoli, qui s'était inclinée.
Voilà donc pour la victoire de Loïs Boisson. Donc d'ailleurs, on écoute, eh bien, sa réaction après le match.
Je le prends super bien, je me sens bien ici. Je fais match par match, je suis déjà super contente d'en être là. Et bah, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'espère que ça continue le plus longtemps possible. Enfin, je regarde pas tout ce qui se passe autour, voilà. Mais je me rends compte aussi que ça change un peu parce que forcément, quand je sors dans la rue et qu'on me demande des photos, c'était pas le cas avant. Donc voilà, je me rends un peu compte de la chose. Mais voilà, pour l'instant, moi, tout va bien, tout se passe bien. Je compte pas changer grand-chose, donc... Voilà, je reste dans ce que je sais faire et je continue, quoi.
Loïs Boisson, donc, en demi-finale de Roland-Garros. Alors, est-ce une surprise ou non? L'avis de Guy Forget.
Je crois que tout le monde est surpris par ce qu'elle fait depuis le début de ce tournoi. Quand on voit son classement et de là où elle vient, en plus elle a eu des gros problèmes physiques, une opération importante au niveau du genou, l'avoir à ce niveau-là, avec son apparente inexpérience de ces grands rendez-vous sur un court comme le Châtrier, et de voir comment elle arrive au fil des matchs à élever son niveau de jeu et à résoudre des problèmes qui peuvent paraître sur le papier presque insolubles, il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Donc elle nous régale Elle nous donne des très belles émotions. Je crois qu'elle s'en fait elle aussi, par ailleurs. Et donc, j'espère que la fête va continuer. Mais ce qu'elle accomplit déjà aujourd'hui pour arriver en quart de finale, c'est déjà exceptionnel.
Guy Forget. Donc sur Loïs Boisson, une autre réaction, celle de Gilles Simon. Il est très très proche des joueurs et des joueuses, vous allez le voir, et il connaissait bien Loïs Boisson.
De ma grotte, je suis tout. Il n'y a pas un résultat que je connais pas, pas un jeune que je connais pas, pas un joueur que je connais pas, pas une joueuse que je connais pas. Que ce soit bien clair. On a très peu de joueuses dans les 100 premiers, on va en avoir peut-être une ou deux, enfin ça dépend du résultat. Donc ça, d'une manière générale, c'est pas ultra satisfaisant en fait pour... pour un pays comme le nôtre qui investit aussi beaucoup dans le tennis féminin, on a beaucoup de filles qui jouent et de pas y arriver. Donc ça c'est voilà, il faut pas non plus se tromper. Maintenant, on a encore une fois souvent eu de très bonnes joueuses. Là, on en a une qui performe et qui joue super bien, et on espère d'aller même beaucoup plus loin parce qu'on sait que il y a souvent beaucoup de surprises dans le tennis féminin et que ça peut aller jusqu'au bout. Et donc pourquoi pas.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette demi-finale atteinte par Loïs Boisson. Et comme Gilles Simon le dit si bien, pourquoi pas, il reste deux matchs. C'est tout ce qu'il reste à Loïs Boisson. Une demi-finale et potentiellement une finale pour pouvoir gagner ce Roland-Garros. Mais la route est encore très longue, puisque bien de l'autre côté, il y aura un match, peut-être une finale avant l'heure ce soir. Demi-finale entre Sabalenka et Swiatek. Frédéric Suto.
Oui, on les retrouvera jeudi pour cette demi-finale, Arina Sabalenka et Iga Swiatek, finale avant l'heure, hein, on peut dire. Iga Swiatek, elle a gagné les trois derniers Roland-Garros, et Arina Sabalenka, certes, elle est bien plus à l'aise sur dur, mais sur terre, elle l'a montré face à Quyen Vinh Zheng, la chinoise championne olympique, hein, c'était ici l'été dernier. Arina Sabalenka s'est imposée en 2-7, 7-6, 6-3. Quant à Iga Swiatek, eh bien, elle est de mieux en mieux au fil du tournoi. Elle est passée tout près du précipice en huitième de finale. Elle était bien plus solide face à Elina Svitolina. 6-1, 7-5 pour Swiatek.
Voilà donc pour ce match à venir, finale avant l'heure, donc dans cette demi-finale de Roland Garros féminin. Du côté des hommes, victoire expéditive de Carlos Alcaraz, comme nous l'explique Frédéric Suto une nouvelle fois.
Oui, d'habitude à cette heure-là, le central est encore plein, le public vibre, on est dans le quatrième ou cinquième set, c'est ça la session nocturne. Mais là, il a éteint les projecteurs et la résistance de Tommy Paul, Carlos Alcaraz, dans un de ces matchs dont il a le secret. 1h34 seulement, quasiment pas de déchets et un score sans appel, 6-0, 6-1. 6-4, le tenant du titre plus que jamais là pour défendre son trophée de Roland-Garros. On l'avait vu, non pas à la peine, hein, lors des tours précédents, l'Espagnol, mais lors des trois derniers matchs, il avait abandonné un set en cours de route. Il alternait le bon et le moins bon. Là, il était vraiment en mode patron du court et de la terre battue du début à la fin. Carlos Alcaraz qui envoie un petit message à ses adversaires futurs, les Yannick Sinner et autres Novak Djokovic. Avant cela, il y aura Lorenzo Musetti en demi-finale.
Voilà, et Musetti, Frédéric, c'est pas un inconnu. Hein.
8e mondial qui monte en puissance depuis le début de la saison sur terre battue. Il n'avait pas perdu une manche depuis le début du tournoi en 4 matchs. Il en a abandonné une face à Francis Tiafoe, l'Américain, et ses lourdes frappes. Mais Lorenzo Musetti et sa science du jeu sur terre battue a fini par avoir le dernier mot, hein, on a vu un Tiafoe abuser des amortis et il n'avait plus la caisse pour courir avec ces rallyes que lui imposait Lorenzo Musetti, qui a atteint tout de même cette année la finale du tournoi de Monte Carlo.
Voilà donc Frédéric Suto sur la nouvelle pépite italienne. De l'autre côté du spectre, il y a Novak Djokovic qui gagne. Novak Djokovic a 38 ans donc est en demi-finale de Roland Garros. Eric Mabrut.
Match bizarre véritablement. Djokovic a démarré lentement, il est monté en puissance tandis que son adversaire allemand Alexander Zverev lui s'est étiolé progressivement. Score final 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 en faveur de Novak Djokovic, qui a quand même dû sauver une balle de débreak dans la quatrième manche à l'issue d'un échange de 41 coups de manière miraculeuse et exceptionnelle. Le dernier jeu aussi a été très très accroché, mais il a fermé la porte à son adversaire Novak Djokovic, le papy, papy Djoko, 38 ans, qui sera une nouvelle fois en demi-finale de Roland-Garros. Il aura face à lui vendredi ce qui se fait de mieux en ce moment sur la planète tennis. Le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, ça sera plus difficile encore pour Djoko.
Eric Mahmoud, donc Djokovic qui se défait de Zverev. Il fallait un mot de football, parce qu'il n'y a pas que du tennis dans la vie. Ce soir, la France affronte la Belgique dans la Ligue des Nations. Les explications de Solène Ravanel.
Après avoir éliminé la Croatie au tir au but en quart de finale, les Bleus affrontent l'Espagne jeudi à Stuttgart en Allemagne. Un adversaire de taille puisque les Espagnols sont champions en titre. Un défi important pour Manu Koné, le milieu de la Roma, arrivé en équipe de France au début de la saison. En conférence de presse, il a retracé son jeune parcours en bleu.
J'ai fait ma première sélection en septembre. Jusqu'à présent, j'y suis encore. Donc je suis très content. J'essaie de donner le meilleur de moi-même au quotidien, aux entraînements et surtout en match. Quand j'ai l'opportunité d'avoir des minutes de jeu ou quand le coach me fait confiance, j'essaie de me donner au maximum et de rester surtout moi-même. Je suis très content d'être là. On a une bonne équipe et j'espère qu'on ira loin ensemble. On est des compétiteurs. On sait que c'est un trophée à avoir, donc on va aller chercher ce trophée-là. Et on sait qu'il faut passer par l'Espagne. On est tous galvanisés. À l'entraînement, on se donne à fond. On a bien couru, je peux vous dire, le dernier jour, on bosse bien. Donc on est confiant et on va arriver au match l'esprit frais et tenter de gagner ce match.
L'équipe de France qui affrontera donc l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations ce jeudi à 18h45, temps universel. Match à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Et demain, l'autre demi-finale opposera l'Allemagne au Portugal.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
h 28 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Écoutez Radio SBS, le programme en français. Il est 13h et bientôt 42 minutes.
Vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Jean-Claude Antoine, qui est très connu dans le monde de la presse mauricienne et qui est de passage en Australie. Jean-Claude Antoine, bonjour et bienvenue à vous.
Merci de m'accueillir.
Peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, la plupart des francophones, racontez-nous votre parcours dans le monde de la presse mauricienne. Vous avez débuté quand et où ?
Il y a très très longtemps, peut-être trop longtemps de ça. J'ai été fonctionnaire pendant des années. Ouais. Je m'occupais d'organiser des activités culturelles. Et puis un jour, et en même temps je faisais un peu de télévision. Et un jour, j'ai voulu changer de carrière. J'ai écrit à un directeur de journal en lui disant que j'envisageais de faire autre chose. Et il m'a téléphoné en me disant « demain 10h ». Donc ça, c'était en 83, je crois. Donc, ça continue. Et quand est arrivé l'âge de la retraite, je suis allé lui dire que légalement je devais arrêter. Il m'a dit, je te pose une question, tu vas décider après de ce que tu feras, de ta réponse. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire chez toi ? Reste là, fais ce que tu sais faire. Donc je continue à faire ce que je crois savoir bien faire. Voilà le résumé très succinct d'une longue carrière finalement, parce que je suis un dinosaure de la presse mauricienne en plus.
Et donc, vous travaillez pour Le Week-end ?
Je travaille pour Le Week-end.
Le Mauricien ?
Je travaille pour Le Week-end, qui fait partie du groupe Le Mauricien. Le Mauricien, c'est l'un des plus vieux journaux de Maurice. Il y a des créés par Raoul Rivette, il y a des années de ça, des décennies même, on peut dire.
Et cette presse mauricienne a une histoire extraordinaire. C'est une presse francophone qui existe depuis...
C'est une des plus anciennes presses francophones du monde, qui, malgré le fait que Maurice ait été colonisé par les Anglais pendant 150 ans, a tenu, parce que nous publions essentiellement
en français.
Il y a de plus en plus maintenant des colonnes qui sont réservées à l'anglais, mais en substance, la presse mauricienne est toujours francophone, on ne sait pas comment, pourquoi.
Jean-Claude Antoine, on va parler de l'actualité qui domine l'île Maurice ces jours-ci. L'île Maurice a récupéré la souveraineté des îles Chagos, dont fait partie Diego Garcia. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cet accord ?
Quand les Mauriciens ont voulu acquérir l'indépendance dans les années 60, une des conditions que le gouvernement colonial anglais a imposées, c'était de céder l'île de Diego Garcia, l'archipel de Diego Garcia, l'archipel de Chagos, dont fait partie le Diego Garcia, qui allait être transformé dans une base militaire gérée par les Américains pour la protection de l'Occident contre, à l'époque, c'était la guerre froide, c'était les Russes.
Contre les Russes et les Chinois.
Maintenant. On est toujours dans la même position finalement, mais on a changé de vis-à-vis. Et donc, pour ce faire, on a déporté toute la population qui habitait sur les îles de l'archipel. Certaines étaient envoyées à Maurice, d'autres aux Seychelles. Et il y a eu une longue...
en Grande-Bretagne.
Oui. Non, mais après, la Grande-Bretagne est arrivée après. Parce que quand les Chagossiens commençaient à revendiquer leurs droits, quand ils commençaient à se faire entendre, donc une partie... Les Anglais, au fur et à mesure, ont cédé en donnant une compensation qui a été, à l'époque, gérée par le gouvernement mauricien, en donnant de la nationalité à quelques-uns. Bref, à essayer de régler le problème, parce qu'on commençait déjà à dire que les Chagossiens étaient devenus les Palestiniens océaniens parce qu'ils étaient déportés de chez eux pour aller ailleurs. Le combat est devenu politique. Les partis politiques mauriciens sont rentrés dans la bataille, ont soutenu les Chagossiens. Et ça a été une très longue bataille au niveau juridique, au niveau de la communication, qui a fini par obtenir un vote aux Nations Unies, où une majorité a réclamé que la Grande-Bretagne rende à Maurice, ce qu'elle revendiquait depuis des années, sa souveraineté sur les Chagos.
Est-ce qu'il va falloir l'autorisation des Anglais pour pouvoir aller visiter les îles Chagos à l'avenir ?
J'ai lu dans un journal australien un magnifique papier qui expliquait tout ça et qui posait la question : est-ce que les Mauriciens ne sont pas en train de passer du statut de propriétaire à celui de locataire ? Parce que le bail qui a été signé est un bail de 99 ans, renouvelable, sans condition, et qui permet à l'Angleterre, donc aux États-Unis à travers l'Angleterre, donc d'user du Diego Garcia jusqu'à la prochaine génération. Donc c'est la question de savoir, est-ce que nous avons tout récupéré, se pose, mais à cela, et beaucoup le disent, il valait mieux faire ça que ne rien avoir du tout.
Et vous, personnellement, vous voyez l'avenir des Chagos comment ?
Écoutez, je crois que c'est une question impossible à répondre pour le moment parce que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a un accord avec une location que le gouvernement mauricien va toucher. Il y a des fonds prévus dans cet accord qui vont être mis à la disposition des Chagossiens. Mais qui va gérer tout ça? Comment cela va se faire? C'est un peu compliqué à le dire jusqu'à maintenant. Mais je crois que il y a de l'espoir. Je crois que si chacun y met du sien, on va pouvoir faire quelque chose en respectant les conditions de l'accord qui sont de Diego Garcia en dehors du contrôle mauricien, certainement. On récupère la souveraineté ailleurs, mais pas sur Diego Garcia. Mais je reviens à l'article dont je vous parlais, ce qui permettait à ce journaliste australien de dire qu'avec la cession, la reprise des Chagos par Maurice, le royaume impérial britannique qui ne se couchait jamais sur le monde est arrivé à fin, à terme.
Jean-Claude Antoine, parlons des dernières législatives, 6 mois après les élections, je crois que c'est 6 mois maintenant. Oui. Comment se porte le pays ?
Le pays se porte comme il se porte après une élection.
Ça prend du temps.
Oui, mais, parce que... Non, il faut résumer. Il y a eu 10 ans d'un gouvernement dirigé principalement par le MSM qui a fait des choses contre lesquelles tout le monde s'est élevé, etc., etc. Et ils étaient tellement persuadés de récupérer un troisième mandat qu'ils ont, on revient à Diego, qu'à la veille de la proclamation des élections, le gouvernement d'alors a annoncé l'accord, un accord sur Diego Garcia, etc., etc., pour faire partie des choses qu'il offrait aux Mauriciens. Donc le Mauricien, vous le savez aussi bien que moi, est capable d'adorer un gouvernement, un parti politique, est capable de s'en débarrasser. Mais vraiment, en ne laissant rien derrière. Donc on a eu, en novembre dernier, 60-0, ce qui veut dire qu'aucun
des candidats... Il n'y a aucune opposition.
Qu'aucun des candidats de leur précédent gouvernement n'a été élu, même le Premier ministre. Donc, mais le problème est que pendant ces 10 ans précédents, il y a eu au niveau financier des choses faites dont on découvre maintenant les conséquences, et que la situation, les Mauriciens ont voté plus pour contre que pour l'actuel gouvernement. Mais l'actuel gouvernement était obligé de prendre des mesures financières qui vont faire très mal et qui commencent à entamer sa popularité.
Et cette histoire de landslide, ça arrive souvent à Maurice, je crois.
Trois fois depuis l'indépendance, oui.
C'est une bonne chose.
C'est dû aussi au système politique. C'est dû au système électoral qui est the first past the post.
Comme en Grande-Bretagne.
Comme en Grande-Bretagne, pour les derniers 10 ans du précédent gouvernement, ils ont remporté l'élection avec 37% seulement des voix. Ce qui a permis de diriger pendant 10 ans. Donc, le problème à ce niveau-là, c'est que tous les partis politiques, quand ils sont dans l'opposition, disent qu'il faut absolument en finir avec ce système qui date des années 68, etc., etc. Mais aussitôt qu'ils sont arrivés au pouvoir, et qu'ils arrivent au pouvoir grâce à ce même système, ils oublient. Donc on se retrouve actuellement dans la même situation. On va s'en occuper plus tard. C'est le jeu politique.
Et sur le plan économique et social, comment ça...
Ben écoutez, sur le plan économique, ça va mal, parce que nous avons les répercussions de toutes les mesures qui sont prises aux États-Unis, etc.
Les tarifs,
c'est répercuté doublement parce que nous dépendons de tout. Mais je commence à parler australien. Mais nous dépendons de tout ce que nous des autres pays. Donc il faut s'ajuster, c'est compliqué. Et un avocat qui était un observateur politique avait dit que les élections seront gagnées, mais que les premières mesures que le gouvernement aura à prendre seront tellement impopulaire qu'il se demande s'il tiendra longtemps. Nous sommes arrivés à cette période. Le budget est présenté vendredi. Le budget national est présenté. Et déjà, on dit qu'il va être un budget très, très dur. Donc, il va falloir suivre. Peut-être que dans 5 ans, nous aurons le quatrième 60-0.
L'île Maurice dépend beaucoup du tourisme. Oui. Et je vois que dans la presse, on parle beaucoup de la baisse des arrivées. Oui. Les marchés traditionnels sont en berne. Il y a une raison quelconque?
Il y a plusieurs raisons, ça probablement. Les mesures prises ailleurs qui incitent les voyageurs des longs vols à ne plus voyager. Notre marché est principalement européen. Donc les gens réfléchissent beaucoup maintenant avec la montée des prix des billets, etc. etc.
Mais les gens vont vers les Seychelles, Sri Lanka,
mais parce que le précédent gouvernement, c'est un peu une mentalité mauricienne. On croit que tout ce qu'on a va durer éternellement. On a cru que l'accord sucrier serait éternel. Mais là, à un moment donné, il est arrêté. Donc, on n'a pas fait autant d'innovations sur le marché pour essayer de le captiver davantage, etc. Alors que les Seychelles, les Maldives, et les Ceylans, qui sont nos principaux rivaux, eux, travaillent dessus. Donc, tout ça, on est en train de mettre en place maintenant une nouvelle politique pour essayer de récupérer. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et en attendant, l'industrie touristique ne se porte pas très bien.
Et sur le plan social, à Maurice ?
Sur le plan social, Maurice, comme Maurice, a toujours été. Il y a des heurts, il y a des questions qui remontent à beaucoup, beaucoup plus loin qu'on ne le croit, mais qui resurgissent de temps en temps. À chaque fois qu'il y a des élections, des petites tensions, etc. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle le charme mauricien. On vit avec.
On parle du droit de vote, un droit de vote pour les gens de la diaspora.
C'est accueilli avec assez beaucoup de réticence de la part des Mauriciens qui se demandent de quel droit des gens qui n'ont pas vécu à Maurice, qui n'ont pas prosaïquement participé à des taxes, etc., etc., auraient le droit de venir. C'est une question qui fait débat. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Les avis sont très partagés sur la question. Mais il y a beaucoup de Mauriciens qui sont très, très, très réticents. Il y a beaucoup de Mauriciens de la communauté qui sont très, très d'accord pour cette mesure. C'est une question qui va sans doute faire beaucoup de débats à Maurice.
Dernier message, Jean-Claude Antoine?
Ben, je suis ravi de vous retrouver, vous êtes toujours là. Comme quoi les Mauriciens chinent debout pendant très longtemps. J'étais ravi de vous voir les amis. Et de voir que finalement, nous sommes un petit pays, mais que l'Australie, finalement, à peu près, les mêmes fondements que nous, finalement. Beaucoup, des gens venant de raisons différentes, obligés de se côtoyer et se découvrant de plus en plus, avec sans doute beaucoup de réticence au départ. Mais je crois que c'est la solution pour le monde de demain. Malgré ce que nous entendons venant d'ailleurs, moins de métissage, moins de partage, je crois que c'est la solution est par là.
Jean-Claude Antoine, merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce jeudi 7 juin. Le premier de Tasmanie, Jeremy Rockliffe, admet que son gouvernement minoritaire risque de tomber ce jeudi suite à une motion de censure de l'opposition travailliste avec le soutien des crossbenchers. Le gouvernement albanais retarde la mise en œuvre de sa nouvelle législation sur les soins aux personnes les plus âgées qui obligera ces personnes à contribuer davantage d'argent à leurs besoins en matière de soins.
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris et te joues de moi comme de toutes choses. Et dispose.
Et voilà, avec Charles Aznavour, parce que tu crois, on se quitte. Prochain rendez-vous samedi et dimanche à 13h et mardi prochain pour le live à 13h. Belle fin d'après-midi et à très bientôt.
Tu fais naître ma douleur. Et bien malgré toi, en tout cas, je le pense, tu dépenses le bonheur.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.